Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Jérôme Chapuis.
Bonjour Delphine de Vigan.
Bonjour.
Depuis le succès de votre livre Noé et moi en 2009, vous êtes devenue l'une des romancières les plus appréciées, les plus aimées du public. Vos deux derniers ouvrages, Rien ne s'oppose à la nuit et D'après une histoire vraie, prix Goncourt des lycéens et prix Renaudot il y a 2 ans, ont été de spectaculaires best-sellers. Vous publiez votre nouveau roman Les Loyautés aux éditions Lattès. C'est l'un des événements de ce début d'année en librairie. Un nouveau livre, est-ce que c'est repartir à zéro à chaque fois, en dépit des succès, des réussites précédentes?
Oui, tout à fait. C'est à chaque fois repartir à zéro, tout en ayant le sentiment de creuser un peu son sillon, son chemin. Mais à chaque fois, enfin à chaque fois que je termine un livre, j'ai l'idée que c'est peut-être le dernier, en fait, que je ne suis jamais sûre d'être capable d'écrire un nouveau livre.
Vous avez eu une sorte de vertige avant de commencer?
Toujours, il y a toujours un petit vertige avant de commencer un roman. Celui-ci, c'est une écriture qui a été plutôt fluide pour moi. J'ai connu de pires traversées, mais il y a toujours ce petit vertige.
Alors, avec Bernard Lehu qui est à mes côtés, nous allons prendre le temps de parler de ce livre, Les Loyautés, que nous ferons gagner, dédicacé, si vous en êtes d'accord, au 3210, le standard de RTL. En studio également avec nous, Isabelle Morini-Bosque pour les programmes télé de ce soir et Charlotte Arrigoni pour les Express de Laissez-vous tenter. Bernard, que nous raconte Delphine de Vigan dans son nouveau roman Les Loyautés?
Bon, alors, je ne vais pas tout raconter, non, évidemment, à mon tour, mais d'abord, je dois dire qu'une fois ouvert, on ne lâche plus votre livre concis, 200 pages, haletant, rugueux, poignant. C'est une incontestable prouesse d'écriture, une addiction à laquelle vous aussi, vous avez succombé. Jérôme, je le sais.
Oui, vous effectivement. Vous l'avez confessé. 2h30 de lecture, c'était...
Alors, Les Loyautés, c'est un roman à 4 voix qu'il vous sera impossible d'oublier. Hélène, prof de collège, ancienne enfant battue, se demande si son élève, Théo, 12 ans, ne subit pas le même sort. Écartelé entre une mère et un père douloureusement divorcés, Théo, en réalité, s'anesthésie dans l'alcool avec son meilleur ami Mathis, déchiré, lui, entre la fidélité à son camarade de collège et un sentiment de culpabilité qu'il tente de masquer à sa propre mère, Céline. Céline, elle-même, désemparée, désorientée par la découverte de l'horrible face cachée de son mari. On s'arrête là, pour les détails. Alors, ces 4-là vont-ils sombrer définitivement ou se sauver? C'est tout l'enjeu du livre. Delphine de Vigan, ma première question est toute simple. Quel a été le point de départ de votre roman « Les Loyautés » ?
Alors, c'est la rencontre sans doute de deux choses. D'une part, effectivement, l'envie d'écrire sur ce thème de la loyauté qui, je me rendais compte, était quelque chose d'assez important pour moi, une question qui revenait souvent. Est-ce que je suis loyale? Est-ce que c'est loyal si je fais ci, etc. Et je m'interrogeais sur l'origine, finalement, de cette préoccupation. Et par ailleurs, l'envie de revenir à une forme très courte, à un roman très, très resserré, très nerveux. C'était vraiment l'idée que j'en avais d'un livre qu'on prendrait et qu'on ne lâcherait pas. Et voilà, de tendre comme ça quelque chose, un peu comme un compte à rebours dès le début du roman. Et je l'imaginais même plus court, à vrai dire.
Alors, il y a un préambule, un texte qui ouvre ce roman qui est absolument formidable, justement, sur le thème de la loyauté. Et vous écrivez les loyautés qui sont nos ailes et nos carcans. C'est vrai qu'à la fois, elles peuvent nous libérer, mais aussi nous emprisonner. Ces loyautés, ces fidélités à quelqu'un ou à une idée...
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a souvent une image plutôt positive de la loyauté, et à juste titre, parce que on a besoin de ça pour vivre ensemble. Mais en même temps, j'avais l'idée que parfois les loyautés peuvent aussi être plus absurdes, nous habiter de manière plus inconsciente, et que parfois on s'enferme dans des loyautés dont on ne sait pas très bien d'ailleurs d'où elles viennent. Souvent, ça remonte à l'enfance, et on peut s'enfermer.
Alors là, il y a une loyauté terrible pour Théo. C'est cet enfant écartelé par un divorce très douloureux, des parents évidemment qui ne s'entendent plus, où l'amour s'est transformé en haine. Et Théo essaie de rester malgré tout loyal vis-à-vis de ses deux parents. Et là, il s'enferme dans cette forteresse.
C'est un des aspects, de mon point de vue, de ces loyautés comme ça, qui peuvent être un peu oppressantes et étouffantes, en ce qui concerne ce jeune garçon qui est pris dans ce qu'on appelle un conflit de loyauté entre ses deux parents, ce que ressentent probablement très souvent les enfants de parents séparés. Ça a été mon cas quand j'étais enfant, et je suis moi-même séparée du père de mes enfants. Je pense que c'est une situation qui, très vite, d'ailleurs que la séparation soit conflictuelle ou pas, souvent oblige les enfants à une espèce de pacte comme ça de non-trahison, de silence, cette idée qu'au fond, ils naviguent d'une culture à l'autre en permanence, avec l'idée qu'il ne faut surtout pas trahir l'un et l'autre des parents. Et je pense que ça conditionne pas mal l'attitude qu'on peut avoir après aussi à l'âge adulte.
Alors, vous le dites, hein, Delphine de Vigan, il y a comme toujours une part d'expérience personnelle dans ce roman, comme dans les autres. D'où vient d'ailleurs le très beau personnage d'Hélène, cette prof de collège, qui perçoit très vite qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez Théo.
Je ne saurais pas vous dire d'où elle vient, comme souvent d'ailleurs les personnages de fiction, et c'est un livre de fiction. Il y a effectivement probablement des choses qui sont très intimes dans l'écriture, qui sont toujours très intimes, y compris quand on écrit de la fiction. Cet élan-là, il vient probablement de mes propres failles. Mais ensuite, ce qui m'intéresse, c'est de raconter vraiment le monde d'aujourd'hui. Et j'avais cette idée que Les Loyautés soit un roman très contemporain.
Très actuel, hein, voilà. Dans des thèmes que nous, journalistes, commentons dans l'actualité tous les jours.
Oui, ça c'est important pour moi, cette idée qu'en tant que romancière, je tends un miroir au monde qui nous entoure. Donc ce personnage d'Hélène, c'est vraiment pour moi une professeure d'aujourd'hui qui est confrontée à des problématiques d'aujourd'hui.
Mais il y a un travail malgré tout de documentation. Vous avez rencontré des enseignants pour brosser ce portrait qui sonne très juste.
J'en connais, il se trouve que j'en connais. J'ai notamment une amie d'amis qui est professeure de SVT, ce qui est le cas d'Hélène, donc Sciences et Vie de la Terre en collège, que j'ai harcelé de quelques mails pendant la période d'écriture pour avoir des détails un peu techniques sur le métier, justement, comment ça se passe quand, comment ça se passe si, etc. Mais au fond, c'est pas à partir de là que j'écris cette documentation qui m'arrive en effet de faire. Elle me sert surtout à nourrir l'imaginaire, à nourrir les personnages, et le plus important pour moi, c'est que ces personnages, on y croit, qu'ils soient incarnés, qu'on ait de l'empathie pour eux. Donc voilà, après, je ne sais pas très bien, ils sont nourris de plein de choses, souvent.
Et je voudrais insister là-dessus, sur la prouesse d'écriture. On l'a dit, c'est un livre court, 200 pages, on vient aussi de le mentionner, qui embrasse plein d'aspects aujourd'hui de la société, et tout ce qui ne tourne pas rond dans notre société, un grand roman social. Et en même temps, ça se lit comme un suspense, quasiment comme un polar, il y a une tension formidable. Comment vous obtenez ce résultat? Ça, c'est tout le travail de l'écriture, j'imagine.
Oui, c'est vraiment une de mes préoccupations majeure, d'une manière générale, hein, je crois, dans mes romans, j'aime bien cette idée de tendre un arc, que le lecteur soit attrapé. Souvent, cette image me vient de en tant qu'auteur, d'attraper le lecteur par le col et de ne plus le lâcher. Comment je fais? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait partie des choses auxquelles je pense quand je termine un chapitre, qu'on a envie d'aller au chapitre suivant. Je parlais de compte à rebours tout à l'heure, donc cette idée qu'on commence le roman et qu'on sait qu'il y a un enjeu dramatique majeur. Ces personnages, on les prend à un tournant de leur vie qui peut potentiellement être un rebond, qui peut aussi être le chaos, en fait. Et peut-être que c'est ça qui fait que le lecteur se prend au jeu.
Et puis il y a la forme, hein, le rythme, c'est extrêmement rythmé, avec justement ces quatre voix en alternance, des chapitres très courts, et voilà, on feuillette, comme disent les Américains, c'est un véritable page-turner, on tourne la page.
Mais j'espère.
Alors parmi les nombreux thèmes qui sont abordés, il y a celui des addictions chez l'enfant et l'alcoolisme chez les jeunes, voire chez vraiment les enfants, hein, puisque Théo est encore un enfant dans ce roman, il a 12 ans. C'est un vrai phénomène, ça, à l'école, vous avez enquêté
à l'école et en dehors de l'école. Enfin, je dirais probablement, j'espère, surtout en dehors de l'école, mais c'est vrai qu'on sait aujourd'hui que les jeunes boivent de plus en plus tôt et qu'il y a une recherche qui n'est pas seulement une recherche d'ivresse, qui est vraiment cette idée, comme ils disent, de se mettre vraiment par terre, de se mettre vraiment minable. C'est quelque chose qui m'a frappé, c'est en tant que mère, j'ai été évidemment inquiète pour mes enfants qui soient confrontés à ça. On est sensibilisé, je pense, en tant que parent, assez vite à cette idée que les jeunes peuvent boire très tôt.
Et puis il y a ce mur d'ailleurs entre les adultes et les enfants qui est quasiment infranchissable, hein, pendant tout le roman.
Oui, tout à fait. J'avais cette intuition parce que j'en entendais parler quand maintenant mes enfants sont plus âgés, mais quand mes enfants étaient un petit peu plus jeunes, que j'ai confirmé dans des statistiques qui sont publiées par les hôpitaux sur les comas éthyliques, par exemple. exemple, il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent dans les hôpitaux en coma éthylique et de plus en plus jeunes. Donc,
Le cas que vous racontez dans le livre, donc Théo avec son copain Mathis, qui vont boire de l'alcool, enfin tout ce qu'ils trouvent, whisky, vodka, etc., sous un escalier à l'intérieur de l'établissement scolaire, ce sont des cas avérés. Ou c'est l'imagination du romancier.
Moi-même, parfois, je dois dire qu'après, quand on me demande d'expliquer d'où viennent ces idées, parfois assez noires, je ne sais pas toujours l'expliquer.
Ouais, ça en passe et, de drôles choses dans cette jolie tête.
Il y avait cette image comme ça d'un refuge à l'intérieur du lycée, d'une cachette. Et j'ai pensé à cet escalier qui pourrait abriter. Alors, je ne sais pas si ça correspond à des images de ma propre adolescence, peut-être, de cachette possible dans le collège qui était le mien.
En tout cas, on y est, hein, vraiment, on y est dans les couloirs du collège, dans cette cachette, effectivement, un endroit un peu angoissant, mais que voilà, qui rappelle sans doute à chacun d'entre nous les lieux sur lesquels nous avons passé chacun notre enfance.
Oui, ce que j'aime, c'est cette idée justement de faire naître chez le lecteur, renaître le souvenir presque olfactif, sensoriel de sa propre enfance ou de sa propre adolescence. Or, ces bruits des collèges, ces odeurs, c'est labyrinthe, comme ça, je pense qu'on les a tous connus. Donc, le lecteur, j'espère, lit aussi avec sa propre mémoire, en fait.
Vous pointez aussi, donc il y a des aspects documentaires, mais vraiment sous un vernis purement littéraire, vous pointez l'incapacité du système scolaire à faire face à ce genre de situation, ces enfants perdus dans l'alcoolisme
ou dans
d'autres refuges artificiels.
C'est vrai, je pense que c'est d'abord d'autant plus compliqué aujourd'hui pour les professeurs de faire face à ce genre de situation qui sont souvent face à des classes extrêmement surchargées. Donc, je pense que déjà la préoccupation d'éducation, elle est complexe aujourd'hui. C'est difficile et c'est d'autant plus difficile en ce qui concerne ce personnage de Théo que c'est un enfant qui ne parle pas, qui au contraire s'attache à dissimuler les signes éventuels de son mal-être. Je pense que tous les professeurs ont été confrontés à ça, à la difficulté aussi de faire parler à un enfant qui manifestement ne va pas bien, mais qui ne veut rien en dire.
Nous sommes toujours en votre compagnie, Delphine de Vigan, à l'occasion de la parution chez Lattès de votre roman Les Loyautés. Vous y posez une question que se posent parfois aussi un certain nombre de parents. Est-ce qu'on connaît vraiment ces enfants? Est-ce qu'on les connaît vraiment? Est-ce qu'on sait tout de leur comportement en dehors du cercle familial? La réponse, évidemment, c'est non.
Non. Et ça, je pense qu'effectivement, on l'a tous éprouvé, probablement d'ailleurs en tant qu'enfant et pour ceux d'entre nous qui sont parents en tant que parents. Et notamment, d'ailleurs, pour moi, ce temps du collège qui est vraiment un moment de transformation très, très importante pour les jeunes pré-adolescents ou adolescents. Il y a quelque chose qui vraiment nous échappe, je pense. Je l'ai vécu avec mes enfants. J'ai appris après coup des choses qui leur étaient arrivées ou qui s'étaient passées pour eux au collège. Pas forcément de cet ordre-là, mais vraiment, dont je n'avais absolument aucune idée.
Et alors, on n'est pas au courant parce qu'ils mentent, pardon.
C'est le temps du secret aussi. C'est un moment, en fait, où ils ont aussi besoin de devenir plus autonomes, d'avoir leur propre vie. C'est un temps où le rôle des copains, etc., joue un rôle très, très important, où on peut... Je pense à la question du harcèlement scolaire, par exemple, où on peut vivre des choses extrêmement intenses, extrêmement destructrices, sans jamais en parler. C'est vraiment un moment de fragilité pour moi, le collège. C'est très, très violent. Et je trouve que... Enfin, j'ai le sentiment que ça allait de plus en plus.
C'est un grand roman sur le silence, les silences aussi, oui. En réalité. On aurait presque pu le titrer également « Les silences ». On lui est place de déloyauté. C'est un thème qui vous a toujours intéressé.
Oui, ce qui m'intéresse, c'est aussi la fragilité, au fond, la faille. Alors, c'est vrai que dans le cas de Théo, et c'était le cas d'autres de mes personnages de romans, il y a cette idée, comme ça, de ce qu'on ne dit pas, d'une forme de maltraitance, ou je pense au personnage de Mathilde, par exemple, dans Les Heures Souterraines, qui était harcelé moralement dans son entreprise.
Oui, qui est l'un de vos romans précédents.
Voilà, ce qui m'intéresse, c'est la violence silencieuse, c'est la violence qui ne se voit pas, celle qu'on ne peut pas déceler forcément au premier coup d'œil, celle qu'on ne peut pas dire, celle dont on a honte. Et là, effectivement, c'est le cas aussi pour le personnage.
Le harcèlement à l'entreprise que vous avez également subi dans votre première vie professionnelle.
Oui, c'est beaucoup dire. En tout cas, une situation conflictuelle et destructrice, ce qui n'était pas forcément celle du roman.
Alors, qui est l'autre? On se posait la question tout à l'heure à propos des enfants, mais cette question vaut aussi pour le conjoint. Et Céline, l'une des deux voix féminines du livre avec Hélène, cette prof de collège, Céline découvre que son mari n'est pas du tout tout l'homme qu'elle croyait. On laisse la découverte au lecteur. Est-ce qu'on vit auprès, en permanence, d'un ou d'une inconnue ?
Probablement, en partie. Je crois que c'est pas une... je suis pas sûre que ce soit un scoop. Je pense qu'on... souvent, quand on vit en couple, on a cette
idée. Chez vous, là, la part d'inconnu, chez William, mari de Céline, elle est énorme.
Oui,
et immonde.
Et inattendue. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, elle le dit. Peut-être qu'au fond, elle le savait, elle s'en doutait, mais qu'elle voulait pas tout à fait pas vraiment le voir. Mais oui, bien sûr qu'il y a une part de mystère chez l'autre. Le problème, c'est quand tout d'un coup, cette part se révèle comme une encre sympathique, en l'occurrence, pas très sympathique. Apparaît et qu'elle est totalement en désaccord, enfin c'est avec ce qu'elle découvre de son mari. Ça, c'est plus compliqué parce que jusqu'où va-t-elle lui servir d'alibi? Ouais.
Quelle est votre part de mystère et d'inconnu des films de Pigalle?
C'est
l'heure de s'allonger sur le divan.
Elle est sans doute immense, mais ce n'est pas ce matin que je vais vous la révéler.
Il y a un thème d'actualité, d'ailleurs on en parlait encore ce matin sur RTL, parce qu'Emmanuel Macron en a dit un mot, c'est la part des réseaux sociaux, dans l'actualité de ce livre. Vous n'êtes pas tendre avec les réseaux sociaux, le lieu de cette parole complètement désinhibée, parfois haineuse. C'est vertigineux, ça, pour un écrivain?
Certains l'utilisent beaucoup, les réseaux sociaux, etc. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait assez peur, je dois dire, à titre personnel. On parle beaucoup de la libération de la parole, etc. Et c'est vrai que dans certains cas, ça a été extrêmement positif. Mais il ne faut pas oublier que la libération de la parole, c'est aussi le déversement de ces idées immondes qu'on ne contrôle pas, qu'aujourd'hui, en fait, on n'est pas capable de contrôler. On a tous les jours des exemples comme ça de propos extrêmement antisémites, racistes, xénophobes, misogynes, etc., qui arrivent tout à fait à proliférer sur Internet sans qu'on puisse y faire grand-chose. Et on peut s'interroger sur ce lieu où cette parole anonyme est rendue possible, en fait. C'est l'anonymat aussi qui permet de déverser ça. Avant, les gens écrivaient des lettres anonymes, mais ça prenait du temps. Aujourd'hui, il y a une espèce d'immédiateté comme ça qui est...
C'est beaucoup plus facile, peut-être.
C'est beaucoup plus facile et du coup, ça se multiplie.
Pour conclure sur votre roman Les Loyautés, en général, vos livres abordent des sujets plutôt noirs, plutôt sombres, mais ils ne s'en dégagent jamais de désespoir, au contraire. Pourquoi ?
Ah ben merci de le souligner. Je ne sais, parce que pour moi, en fait, ce que j'ai envie de raconter, c'est le monde tel qu'il est, c'est l'humanité telle qu'elle est. Donc effectivement, oui, il y a sans doute quelque chose d'assez dur, âpre, mais au fond, toutes ces choses-là existent. Et ça ne m'empêche pas de croire à la lumière, à la capacité de rebond, au changement. J'espère qu'en effet, ça apparaît dans mes livres.
Eh bien, allez découvrir la lumière qui est au bout, à la fin de ses loyautés, donc publiée chez Lattès.
Alors, si vous nous suivez sur RTL.fr, vous pouvez voir en vidéo que c'est... J'ai plusieurs exemplaires avec moi de ce livre, hein, Les Loyautés, le roman de Delphine de Vigan. Pourquoi ? Parce que nous les faisons gagner ce matin aux auditeurs de RTL, dédicacés aux éditions Lattès. Pour cela, il faut répondre à la question de Bernard Lehu.
Alors, l'une des quatre voix du livre est une professeure de collège. Est-ce qu'elle se prénomme Jeanne ou Hélène ?
Voilà, la réponse, c'est au 3210, le standard de RTL, vous connaissez le chemin. Depuis l'an dernier, Delphine de Vigan, on peut vous voir aussi sur scène avec votre amie chanteuse, la grande Sophie, dans le spectacle « L'une et l'autre ». Vous y entrecroisez vos textes dans un dialogue enjoué avec elle, ses chansons, vous, des extraits de vos livres aussi. On va peut-être écouter un petit échantillon sonore.
C'est drôle, mais bien souvent j'ai pensé à ça. J'aurais pu changer de rôle aussi souvent que je changeais de pièce, d'envie ou d'état. On voudrait tous être quelqu'un d'autre, juste une fois dans sa vie, que tout soit si différent, quelqu'un d'autre. Mais est-ce que ça suffit pour oublier des moments, quelqu'un d'autre?
Delphine de Vigan, comment est née l'idée de ce spectacle?
Alors, ce spectacle est né en fait d'une proposition qui m'avait été faite de partager la scène avec un artiste pour un festival qui s'appelle Tandem. J'avais proposé Sophie qui a accepté mon invitation pour une soirée qui devait être unique. Et puis, face au succès que ce spectacle a rencontré, finalement, on a été amené à le faire évoluer. Et maintenant, on en est presque à 50 représentations.
Ah oui. Alors, mais que vous apporte cette expérience et qui vous manquait dans l'écriture ?
Alors, je ne sais pas si ça me manquait, mais le fait est que ça m'apporte quelque chose. L'idée de j'attache beaucoup d'importance à la musique, au son, au rythme. Quand j'écris, j'écris à voix haute et je me relis à voix haute. Et le fait d'expérimenter finalement la réception de l'écriture sur scène, c'est-à-dire entendre le silence quand vous lisez, c'est quelque chose d'assez grisant, je dois dire. Que dans ce spectacle, il y a des moments comme ça où je lis des extraits de livres assez anciens et tout d'un coup, le silence prend une densité, une épaisseur particulière. Et c'est assez grisant.
Vous apercevez peut-être aussi les regards de certains spectateurs quand vous lisez des...
Oui, alors pas trop. Moi, je préfère pas les voir. Sophie, elle adore voir les gens, mais moi, non.
Alors, vous serez en tournée. Hein, vous serez en tournée jusqu'à fin février, donc, avec la grande Sophie. Vos deux prochaines dates, c'est le 11 janvier, la semaine prochaine, à Ternier dans l'Aisne, c'est ça. Et le 16 à Dunkerque dans le Nord. Vous allez rester avec nous, Delphine de Vigan. On va marquer une très courte pause avant de retrouver Isabelle Morini-Bosque pour la télévision, Charlotte Arrigoni pour les Express de Laissez-vous tenter. À tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les Express LVT.
Nous sommes toujours en excellente compagnie dans ce studio avec Delphine de Vigan pour la sortie de son nouveau livre Les Loyautés. Vous restez avec nous le temps des Express de Charlotte Arrigoni. Bonjour Charlotte.
Bonjour Jérôme et bonjour à tous.
Et tout d'abord, une femme engagée sera présidente du Festival de Cannes au printemps prochain.
Oui, c'est l'actrice australienne Cate Blanchett qui a été choisie. Elle qui a été l'une des premières à dénoncer les agissements du réalisateur Harvey Weinstein. C'est seulement la 12e femme à endosser ce rôle sur la croisette. Le 71e Festival de Cannes aura lieu du 8 au 19 mai prochain. Cate Blanchett, rappelons-le, a reçu deux Oscars dans sa carrière, dont celui de meilleure actrice pour Blue Jasmine de Woody Allen, c'était en 2014, et celui pour son rôle de Katharine Hepburn dans Aviator en 2005.
D'un mot, Delphine de Vigan, ce choix symbolique de Cate Blanchett, donc on l'a dit, très engagé dans la lutte contre le harcèlement, qui est un thème d'ailleurs un peu présent aussi dans votre livre. Vous en pensez quoi, ce choix pour le Festival de Cannes ?
C'est bien, je pense que c'est une belle idée. C'est une actrice que j'aime beaucoup et je trouve que voilà, elle va porter ça probablement loin.
Merci. Il avait 91 ans. On va maintenant parler d'un grand nom du monde de l'édition. Bernard de Fallois nous a quittés.
Il avait créé il y a 30 ans sa maison d'édition sous son propre nom. Bernard de Fallois a notamment publié Marcel Pagnol, puis plus récemment en 2012, La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, devenu best-seller mondial. Sur RTL, le jeune écrivain suisse rend hommage à son éditeur.
Je perds un éditeur, je perds un ami, je perds un maître, je perds celui qui m'a tout donné. Mais je suis très triste de l'avoir perdu et en même temps très heureux de ce que j'ai pu partager avec lui. C'était quelqu'un qui, je crois, avait l'idée de la littérature comme artisanat, qui doit se faire dans le détail avec une rigueur extrême et le reste, le succès, on verra après. Et l'aventure continue, car j'étais à Paris il y a encore 15 jours pour travailler avec Bernard sur mon prochain roman qui paraîtra aux éditions de Fallois en mars. Et ce roman sera un peu large et s'appelle « La disparition de Stéphanie Myler ».
Qui se passera aux États-Unis une fois de plus, hein, je le précise.
Joël Dicker, donc à votre micro, Bernard Lehu, autre disparition d'un grand nom de l'édition, Paul Otchakowski-Laurence, le fondateur des éditions POL, est mort dans un accident de voiture mardi sur l'île de Marie-Galante en Guadeloupe. Il a notamment édité Emmanuel Carrère et Marie Dariussec.
Delphine de Vigan, on a entendu l'émotion de Joël Dicker. Il y a toujours une relation, on imagine, très particulière entre l'auteur et son éditeur.
Hein. Oui. J'imagine qu'on se sent vraiment très, très orphelin quand on perd son éditeur, quand on a une relation comme ça, qui souvent est très proche et qui, en ce qui me concerne, joue un rôle très très important dans mon travail.
On peut citer d'ailleurs votre éditrice, Carina Hossin, c'est le moment de la saluer.
Voilà, deux grands noms de l'édition qui nous ont quittés, Bernard de Fallois, Paul Otchakowski-Laurence. Charlotte, que donne cette semaine le palmarès des ventes de livres avec RTL et le magazine L'Express ?
Trio de tête inchangé du côté des romans, Le Goncourt, L'Ordre du jour d'Éric Vuillard est numéro 1 devant Le Renaudot, La disparition de Joseph Mengele, d'Olivier Guay, française et le Goncourt des lycéens L'art de perdre d'Alice Zeniter. Du côté des essais et documents, La vie secrète des arbres occupe la première place, tenez-vous bien, depuis sa 44e semaine de présence donc au palmarès. C'est un incroyable succès.
Et alors quelque chose d'incroyable aussi, Salvador Adamo, bientôt de retour.
Oui, le chanteur aussi, publiera le 16 janvier prochain un nouvel album intitulé Si vous saviez, un disque enregistré dans les conditions du live avec plus de 40 musiciens. Le tout premier extrait vient d'être dévoilé, le morceau s'intitule Justin, je t'aime.
Justin, je t'aime au moment le plus fort. Fusion extrême, redites-le encore. Après tout le non dit, tous les malentendus, redonnez de la vie aux sentiments perdus. Et n'en faire qu'à son cœur, sans calcul ni raison, retrouver la candeur.
Justin, je t'aime, avec la chanteuse Camille. Premier extrait du prochain album de Salvatore Adamo.
Merci, c'était les Express de Laissez-vous tenter avec Charlotte Arrigoni. Le jingle des audiences, on se tourne vers Isabelle Morini-Bosque pour la télévision.
Eh bien, je suis ravie, car le polar historique Mystère Place Vendôme sur le Ritz est en tête avec 4 800 000 téléspectateurs, 200 000 de plus qu'Esprit criminel sur TF1, que pourtant j'aime beaucoup. Et Éric Antoine sur M6 fait pas mal du tout, près de 3 millions de téléspectateurs et 12% du public sur la 6. C'est les couples qui intéressent pas trop. 1 600 000 sur France 3. Faut dire que c'était pas la meilleure émission du genre.
Alors, le programme ce soir. Tiens, on va signaler, on parlait de Cate Blanchett. Eh bien, elle sera ce soir sur M6 dans le film Cendrillon, dans une version signée Kenneth Branagh. Alors, on a également sur la 2 un divertissement mené par le chanteur Garou.
Oui, le divertissement est en crise à la télévision. Faut innover. Alors, les chaînes, justement, tentent de le faire avec désormais sur la 2 Garou, qu'on retrouve donc ce soir avec la casquette d'animateur. Tout commence sur les chapeaux de roue au sens propre. Il est en retard et saute dans sa voiture avec sa belle tenue, tenue de route incluse.
Je reçois dans mon émission François-Xavier de Maison, Bénavar, Patrick Fiori, Amédée Vianney aussi.
Voilà, vous entendrez Nico Senagui, les vrais pros du secteur, taquiner Garou animateur. Garou qui soumet ses invités à des défis, par exemple Louane devant interpréter sa chanson fétiche signée Sylvie Vartan.
De mes 10 premières années, il ne me reste plus rien, pas la plus.
Ah, mais c'est très bien.
Bah oui, c'est vraiment très bien.
Plus rien qu'un petit refrain.
Et quel imitateur chante ça, je vous
parle. Vous les femmes, vous le charme.
C'est quasiment impossible à trouver.
Ah oui, impossible.
Non. C'est l'imitateur Jérôme Commandeur, qui est un excellent imitateur. Quant à Vianney, il doit lui revisiter et les sardines et Barbara. Quel mélange.
Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte.
C'est drôle, mais c'est vraiment pas son registre.
Mais dis, quand reviendras-tu? Mais dis, au moins le sais-tu?
Voilà, tout ça, c'est donc à 20h55 sur France 2. Il y a de très bons, quelques lourdeurs, mais de très bons moments. Alors, est-ce que l'accent de Garou vous a gêné? Retour sur le plateau.
C'est marrant parce que Vianney en coulisses m'a dit « Tu verras, on comprend rien à ce qu'il dit, ce con. » Et en fait, c'est faux. En fait, je comprends tout ce que tu dis. Mais alors, au mot près.
Voilà, c'était Jérôme Commandeur.
Surtout qu'il n'a pas l'accent quand il chante, Garou. Donc,
non.
Puisqu'on a compris qu'il faisait les titres de son émission en chantant.
La télévision, aucun de vos livres n'a été adapté jusqu'à présent, Delphine
si,
de Vigo.
Si, les heures souterraines a été adapté
oui,
pour la télé.
Exact.
Ouais, dans un très beau téléfilm de Philippe Harel, d'ailleurs.
Et écrire pour la télé, ça vous tente?
Pourquoi pas, si ça se présente, oui. Ouais. Alors, en ce moment, j'écris plutôt pour le cinéma, mais voilà. C'est...
On peut en savoir un peu plus.
Je travaille sur un scénario avec une comédienne qui s'appelle Nedra Ayadi, qui joue d'ailleurs dans Paris, là, la série de
Paris, etc.
Paris, etc. Voilà, de Samu Bretman. Et nous travaillons sur ce qui sera, j'espère, son deuxième long métrage. Le premier n'est pas encore sorti, il va sortir au printemps.
Eh bien voilà des projets dont on aura sûrement l'occasion de reparler avec vous, Delphine de Vigan. Vous êtes notre invitée ce matin dans Laissez-vous tenter. On marque une pause et puis la réponse au jeu pour gagner les loyautés aux éditions Lattès, dédicacées par Delphine de Vigan. À tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Jérôme Chapuis.
Pour gagner le dernier roman de Delphine de Vigan, Les Loyautés, il fallait répondre à cette question, Bernard Lehu.
Eh bien, l'une des quatre voix du livre est une professeure de collège. Se prénomme-t-elle Jeanne ou Hélène ?
Et nous laissons Delphine de Vigan répondre à cette question.
Elle se prénomme Hélène.
Et vous êtes très nombreux, on le sait, à nous avoir appelé au 3210 sur RTL pour gagner un exemplaire des Loyautés. Merci infiniment, Delphine de Vigan, d'avoir été avec nous ce matin dans Laissez-vous tenter. À votre place, demain, nous aurons le plaisir d'accueillir François Cluzet, qui est à l'affiche de Normandie Nu, un film qui est sorti cette semaine. Il sera donc là demain matin en direct dans Laissez-vous tenter, fidèle au poste avec toute l'équipe. Quant à moi, j'aurai le plaisir qui sort mercredi prochain, pardon, j'ai dit une heure, elle n'est pas encore sortie, ce sera mercredi prochain. Quant à moi, bien, je vous retrouve demain matin à 7h pour toute l'info sur RTL.
Vous écoutez RTL.